Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue.
Dans Cour d'honneur.
Saison 4, épisode 10.
Ici, deux voix féminines.
Dans vos deux oreilles.
Ici Chérine.
Ici Swan.
Effectivement, hein, Swan, les auditeurs sont passés du côté des spectateurs.
Mais
ce
ouais,
soir.
Il y a du monde. J'espère qu'au moins, ils vont nous aider à répondre à...
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
Non mais c'est surtout, c'est quoi être étudiant à Radio Sorbonne ?
Un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Le magazine d'info et de culture avec toujours une pointe d'humour.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
Depuis 10 ans.
Et oui, pendant une heure, nous vous promettons...
De la radio évidemment.
Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe Numéro.
C'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes.
Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus.
Et puis de la nostalgie, forcément.
Et surtout, surtout des invités de qualité.
Can I ask you a question?
Can I ask you a question?
Can I ask you a personal question?
Can I ask you a personal question?
Can I ask you a 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 question?
Voici nos promesses.
Et avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Bonjour Lavinia.
Eh ben, bonjour les filles. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le topo de l'histoire de Radio Sorbonne et aussi une chronique débrouille sur la meilleure manière de concocter une émission radio.
Ça a l'air intéressant.
On a très hâte. Bonsoir Elias, le fameux.
Bonsoir à toutes et à tous et merci au public d'être là aujourd'hui.
Et oui. Bonsoir également à Alice.
Salut les filles, salut tout le monde, super contente. Bah dis donc, joyeux anniversaire Radio Sorbonne. Alors, moi je vais vous faire une interview de Eve, qui est géographe et game designer à Ubisoft, et aussi une chronique Sorbonne en personne, secrète, surprise, voilà.
On se demande, et bonsoir à Marion.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir, très contente d'être ici. Je vais interviewer monsieur André Thibault, qui est professeur de linguistique à Sorbonne Université. Bonsoir monsieur.
On dit aussi bonsoir à Maria qui nous a quittés.
Mais elle est juste partie au Brésil, elle va revenir. Et nous, on va toutes les deux se faufiler parmi les chroniqueurs. Alors, tu nous prépares quoi, Chérine ?
Alors moi, j'ai l'honneur d'interviewer Valérie Jeanne-Perrier, responsable du master journalisme du CELSA. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour à toutes. Et toi, Swan ?
Alors moi, je vais pouvoir interviewer les Jobastres, duo du rire sudiste qu'ils transmettent dans toute la France et Paris. Puis je vous ai également concocté un débat sur l'avenir de la radio et ses alternatives. Bonsoir.
Sans oublier, évidemment, Thomas Pesquet. Et non. Pardon, Thomas Legrand ? Toujours pas. Tom Sawyer ? Tom Sawyer ? Non. Et non, c'est encore le fameux, l'unique, l'opulent Thomas Schnell derrière les platines. Bonjour.
Bonsoir, bonsoir à tous. Quel plaisir, quel bonheur d'être avec vous ce soir. Je vous ai concocté un édito. Pourquoi faire de la radio ? Est-ce que ça a encore du sens en 2025 ? C'est à cette question qu'on va répondre pendant l'édito, dès le début de l'émission.
Et voilà, vous avez entendu, faites comme chez vous, chers spectateurs, installez-vous et prenez place du haut de l'amphi où vous voyez rien du tout, ou sur les bancs devant où vous en voyez un peu trop.
Mais aussi nos fidèles auditeurs dans leur chambre de bonne ou au fond de leur salle de cours.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et dans l'amphi de Richelieu.
Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Pour cette émission si spéciale, hein, étant donné que c'est notre recruteur, en chef qui nous a laissé les commandes, c'est justement lui qui se charge de l'édito de cette semaine. Thomas, tu nous adresses un petit avertissement.
Ah, les petits cons, ils vont réussir à me jeter par-dessus bord. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils faisaient leur premier pas. Je revois encore Swan et Chirine, la première fois derrière le micro, le propos encore mal assuré.
Chers téléspectateurs, comme la France
Pardon. C'est un accélérateur de vie. Je pense que on ne serait pas capable de pouvoir vivre ce qu'on serait capable de vivre.
Et donc, après 10 ans à la barre, je leur annonce que je vais passer le relais. Pas de soucis, me répond Alice tout de go. On va enfin finir par s'amuser dans cette émission. Oui, mais mes filles, car le vieux général n'a pas encore dit son dernier mot.
Français, aidez-moi.
Aidez-moi à leur transmettre l'amour de la Radio Sorbonne, le seul média capable d'apporter de l'information, de l'émotion, de l'imagination au travers des ondes, au service des auditeurs. Vous voyez, c'est magique. C'est comme ça qu'il y a 10 ans, on voulait changer le monde. Et là, ils me regardent un peu de travers, les étudiants. Mollo, Toto, mollo, il faut que tu te calmes un petit peu. T'as besoin d'aide.
T'as besoin de se calmer un peu les pompons.
Et si en plus, ils savaient qu'à l'origine, on avait lancé Radio Sorbonne juste pour draguer les filles et boire des pastagamino.
On va passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude.
Alors, mes chers ouailles, prenez exemple sur Lavinia, sur Marion, sur Maria, sur le fameux Elias. Il faut travailler dur pour pouvoir assurer au micro d'RSU et assurer la nuit dans les rues de Paris. Alors avant de partir faire la teuf ce soir après l'émission et pour le reste de votre vie, repensez à ce que disait le vieux Chenel. La vie est courte, brisez les règles, pardonnez rapidement, embrassez lentement, aimez vraiment, riez irrépressiblement et ne regrettez jamais ce qui vous fait sourire.
Eh bien, merci hein, Thomas pour ces sages paroles. Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, il est 20h06 dans l'amphi.
Et 18h06 sur Radio Campus Paris.
Le temps passe vite, Swan.
Et oui, Chérine, tout va vite, comme l'actualité. D'ailleurs, qui de mieux pour en parler, pour parler de comment l'inoculer que la directrice d'une école de journalisme?
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Et oui, et pas n'importe laquelle, celle du CELSA, école de journalistes rattachée à la Sorbonne. C'est Valérie-Jeanne Perrier que nous accueillons ce soir avec Chérine pour l'interrogatoire.
En effet, enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication et directrice de l'école publique de journalisme du CELSA, Valérie-Jeanne Perrier est aujourd'hui parmi nous. Bonjour et merci d'être là. Les médias évoluent, ils deviennent plus nombreux, plus numérique, plus rapide. Il croise parfois la route des fake news, notamment sur les réseaux sociaux. L'impact des médias est réel, c'est en partie grâce à eux que se façonne l'opinion publique. Mais les médias étudiants ont aussi un rôle à jouer pour informer la jeunesse, voire l'éduquer. En l'occurrence, on se trouve actuellement dans le bel amphi Richelieu de la Sorbonne. Pensez-vous que l'impact d'un média étudiant, ou d'une radio étudiante peut-être, peut-il aller au-delà du campus ?
Alors bonsoir et merci de m'accueillir, c'est une vraie fête de pouvoir célébrer ces 10 ans et d'habitude l'ambiance de l'amphi Richelieu est beaucoup plus sérieuse et j'apprécie ce vent de jeunesse. Alors oui tout à fait, je trouve que votre initiative depuis 10 ans de se former, d'apprendre à faire comme les journalistes à travers un média radio, c'est formidable. Moi-même, il y a quelques années, il y a très longtemps, once upon a time, je me souviens, j'ai fait ça. Ça a été pour moi un facteur déclenchant d'une vocation de jeune journaliste. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'étudiante. J'ai été étudiante en journalisme dans un IUT il y a de très nombreuses années. Et vraiment, la participation à un média étudiant m'a donné cette vocation. Et plus tard, au fil de mes études, j'ai recommencé l'expérience dans un journal. J'ai eu la chance de pouvoir faire Sciences Po à Lyon. Il y avait un journal qui s'appelait Les Cornifleurs, qui était porté par un journaliste de Libération et un enseignant, Jean-François Tétu. Et ça a été pour moi une formidable expérience de travail en collectif et puis d'éducation aussi à former mon esprit à récolter l'information, et ça a été une passion qui s'est déclenchée. J'étais longtemps journaliste et puis ensuite j'ai poursuivi ma carrière vers l'enseignement, mais je n'ai jamais oublié ces moments très formateurs et aussi d'amitié, de liens d'amitié qui se créent autour d'une table, d'une rédaction. Souvent on se fait des amis pour la vie. Et ça compte aussi parce que faire ce métier de journaliste, c'est aussi un métier où on apprend certes à hiérarchiser l'information, mais c'est aussi un métier où on apprend à créer des liens, aller à la rencontre des autres, et c'est très formateur de vivre ça en petite soucoupe, bien protégée, aidée sans doute d'un professeur bienveillant qui vous aide à bien découvrir votre talent. C'est vraiment très chouette. Ouais, ouais.
On a parlé des réseaux sociaux. Ils ont un fort impact en ce moment. Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de passer par TikTok, un réseau social de grande ampleur, pour informer les jeunes plutôt que par le biais d'une association ?
Alors, dans votre question, il y a plusieurs angles. Hein. Alors, il y a la question de savoir si les plateformes sont un bon moyen de s'informer quand on est un jeune public. Très certainement, on voit beaucoup de médias essayer d'adapter leur format à ces dispositifs qui sont très particuliers, qui souvent offrent des cadres très, on va dire, fermés hein, pour produire l'information. Une story, un post, c'est des règles qui sont très précises et qu'il est difficile de manipuler. C'est très compliqué, en fait, d'adapter les formes des réseaux sociaux à l'information d'actualité. Et les médias s'y emploient, c'est une forme de journalisme qui est émergente depuis une dizaine d'années, et TikTok n'est qu'une plateforme parmi tant d'autres, qui certes a des spécificités, hein, il y a ces boucles avec les challenges, la musique, les strates d'écriture qui s'imposent les unes sur les autres, c'est vraiment tout un travail de collage et par calque, c'est très spécifique. Certes, c'est un bon moyen d'informer les jeunes, mais il ne faut pas croire que ces jeunes ne s'informent, vous, hein, que sur TikTok. Il y a des études qui sont faites, notamment dans une autre université, à Paris 2, par une collègue, Madame Géhel, qui montre à travers ces études que la télévision reste encore un média très fréquenté, hein, et les réseaux sociaux sont une voie de passage vers les médias traditionnels. Donc on est plutôt dans un système médiatique complexe dans lequel les médias les plus anciens essayent de s'adapter aux pratiques des nouveaux réseaux. Et ces réseaux ont besoin aussi de la publicité, de l'existence dans l'espace des médias les plus anciens pour pouvoir faire leur travail.
Et outre justement les réseaux sociaux et la presse, enfin, les médias de manière générale, est-ce que c'est important que les étudiants aient leur propre espace d'expression médiatique ? Peut-être que ça pourrait lutter justement contre la désinformation qu'on trouve sur les réseaux sociaux.
J'ai l'impression que le micro est coupé. Je trouve ça essentiel. C'est vraiment, ces médias associatifs, c'est un lieu aussi où on apprend à voir que produire une information, c'est pas simple. Hein, savoir la sélectionner, l'écrire, la hiérarchiser, la mettre en forme, c'est compliqué. C'est un métier. Et c'est un bon moyen, je trouve, ces médias de s'apprivoiser ces techniques et de se rendre compte que tout le monde ne peut pas être forcément, on va dire, journaliste. Certes, on voit que le modèle des influenceurs prend une place importante, mais on fait autre chose quand on est influenceur. On fait de la communication, hein. On pousse des produits, on essaye de montrer comment on peut les utiliser. On est plutôt dans une logique, la vie mode d'emploi, un peu à la Pérec, mais on n'est pas dans l'information. Et donc, les médias, je trouve, étudiants, sont des lieux formidables pour apprendre à faire ce travail de l'information.
Et selon vous, c'est quoi les défis justement pour que les médias étudiants restent pertinents et attractifs ?
Eh bien, je crois que les fondamentaux sont importants. Hein. Prendre la parole, rédiger et structurer un papier avec un titre, un lancement, un chapeau, trouver les 5 bonnes informations bien structurées qui répondent aux 5 W, c'est la base. Et avant de se lancer dans des choses très compliquées, revenir autour d'une table avec un micro, s'exprimer, c'est tout à fait, à mon avis, formateur.
On a parlé donc des réseaux sociaux, des médias étudiants, de la presse, de la télévision. Vous avez vous-même étudié au CELSA, vous avez soutenu une thèse sur les mutations des médias et du journalisme liés à l'Internet et les effets sur la lecture de la presse. Selon vous, l'intelligence artificielle représente-t-elle une opportunité ou un risque pour les étudiants ?
Alors vous me replongez presque 25 ans en arrière. Est-ce que l'IA représente une menace ou un danger pour les médias étudiants ? Je crois que c'est comme toute évolution technique, hein. Justement, quand moi j'ai étudié la transformation des médias au moment de l'arrivée de ce qu'on appelait le web, les mêmes questions se posaient. Hein. Est-ce que ça allait tout bousculer ? Est-ce que ça allait tout transformer ? Est-ce que les médias allaient disparaître ? Oui, dans certaines mesures, on voit des évolutions. L'économie des médias traditionnels est fragile. Et avec l'IA, se repose le même genre de questions. Est-ce que ceci va faire disparaître cela ? Hein, c'est une question assez ancienne des médias. Alors, moi, j'ai confiance. Hein, les journalistes et les équipes de rédaction sont tout à fait capables de s'incorporer les innovations. C'est ce que je cherche dans mes travaux. Hein. J'essaie de voir quels sont les processus d'innovation qui viennent par le bas. Et très souvent, les journalistes sont très capables d'adapter les outils. Et avec l'IA, c'est déjà en cours dans les rédactions. Hein, et on voit que certaines expériences ne sont pas concluantes et d'autres sont assez positives. Par exemple, il y a des tâches dans le métier de journaliste qui sont compliquées. Par exemple, vous allez en entretien, vous faites une interview, vous l'enregistrez. Tout le travail de transcription est très long, très complexe. Certes, ça vous nourrit, ça vous donne des idées d'angle, mais c'est chronophage. Et donc, dans toutes ces phases chronophages de la production d'informations, eh bien, on voit des outils d'IA arriver dans les rédactions. Donc, il y a des effets positifs, mais il y a aussi des risques. Hein. On sait bien qu'une IA peut halluciner des résultats qui sont pas tout à fait exacts, peut se tromper sur des dates, peut se tromper sur la carrière, la biographie, inventer une biographie de quelqu'un qui parfois n'existe même pas. Donc il faut arriver à jongler entre ces effets positifs et ces risques hein, qui sont, je dirais, inhérents à toute arrivée de nouvelles technologies dans le cadre des rédactions.
En tant que formatrice, avez-vous remarqué une évolution dans les préoccupations et les priorités des nouvelles générations de journalistes ?
Ah ben, la priorité première, c'est de trouver du travail. Oui. Et c'est un métier qui, certes, attire encore beaucoup. Hein. C'est un métier qui, je vais le dire, fait encore rêver. Quand on est en entretien, quelle que soit l'école, on voit hein, des étudiants qui ont les yeux qui brillent quand ils évoquent ce métier. Mais de plus en plus, il y a une vraie conscience des difficultés du métier. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une pression du temps, une pression aussi de la production. Il y a une concurrence de tous les médias entre eux. Hein. Le web a amené cette idée qu'on n'est pas simplement un média qui a une périodicité avec des rendez-vous, des rubriques, une ligne, et qui fait concurrence dans le même secteur, par exemple la télé avec la télé, la radio avec la radio. Maintenant, les médias se regardent tous entre eux et doivent jongler en permanence entre deux dimensions, le stock et le flux. Et les journalistes hein, sont vraiment soumis, pour le coup, hein, à cette tension formidable qui se joue dans les rédactions. Donc, l'inquiétude des étudiants, c'est d'arriver justement à maîtriser suffisamment de compétences pour pouvoir faire face et trouver sa place hein, dans le monde des médias.
Merci, l'interview touche malheureusement à sa fin. Et comme à chaque fois, on pose notre question emblématique à laquelle personne n'échappe. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Ah bah pour moi, c'est une maison. J'y ai construit ma vie. Hein. J'ai eu la chance d'y entrer quand j'étais en master recherche en 1997, d'y soutenir ma thèse en 2000, d'y soutenir mon habilitation en 2013. Donc c'est chez moi. Hein. J'aime cette maison. Et j'aime ses étudiants.
Merci beaucoup Valérie-Jeanne Perrier. Un grand merci hein, pour cet échange passionnant sur le rôle des médias étudiants, ces médias qui sont bien plus que des plateformes d'expression. Ce sont de véritables laboratoires d'idées, d'innovation et d'engagement où les futurs journalistes expérimentent, se forment et participent déjà à la transformation du paysage médiatique. Ils sont la preuve que les jeunes générations ont beaucoup à apporter avec un regard neuf et souvent audacieux sur l'information.
C'est tout à fait ça.
Et maintenant, sans transition aucune, on se penche sur les anecdotes historiques et les détails de l'histoire foisonnante de la Sorbonne. C'est l'heure du pavé de culture, c'est les savoirs historiques, donc complètement indispensables de cours d'honneur.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas ?
Radio Sorbonne fête aujourd'hui ses 10 ans. Les liens entre la Sorbonne et la radio remontent à bien plus loin, notamment à l'instauration de la 4e République. Et oui, rien que ça. Depuis, elle a fait résonner les voix de nombreuses générations de professeurs et d'étudiants. C'est Lavinia, ce soir, qui va nous guider à présent à travers cette histoire radiophonique née entre les murs de la Sorbonne, mais diffusée bien au-delà.
En effet, Chérine, trois grands moments ont marqué l'évolution de Radio Sorbonne. Et pour comprendre le premier, il nous faut rembobiner bien des années en arrière. 1er décembre 1947, Marcel Edmond Negelen, alors ministre de l'Éducation nationale, inaugure les premières émissions de Radio Sorbonne depuis l'amphithéâtre Richelieu, où nous sommes réunis ce soir. Émission, c'est un bien grand mot, il s'agit surtout de retransmissions en direct de cours de préparation à l'agrégation, au programme de la littérature, de l'histoire et même des cours sur l'expansion coloniale de l'Angleterre au XVIIIe siècle. Parmi les professeurs, on retrouve dans les archives des noms qui vous diront forcément quelque chose, notamment Gaston Bachelard en 1949.
Dans une lettre que Pasteur écrivait à Duclos en 1871, on lit « J'ai la tête pleine des plus beaux projets de travaux. La guerre a mis mon cerveau en jachère. Je suis prêt pour de nouvelles productions. »
Ou encore une série de cours entamés le 4 février 1961 par le seul et unique Vladimir Jankélévitch.
Mesdames, Messieurs, si j'avais à établir un lien entre le cours de cette année et celui de l'année précédente, il faudrait dire que chronologiquement, celui de cette année aurait dû précéder, car s'il y a un lien entre la déception que j'ai étudiée l'an dernier et la tentation, c'est assurément que la déception suit la tentation plutôt que l'inverse.
L'expérience durera un demi-siècle jusqu'en 1997, année où Radio Sorbonne cesse d'être diffusée par Radio France. Le maigre financement du ministère de l'Éducation nationale ne suffit plus et la radio doit fermer ses portes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il faudra cependant patienter 18 ans pour voir renaître la radio à la Sorbonne. En février 2015, Radio Paris-Sorbonne voit le jour, portée par un certain Thomas Schnell, accompagné de Sylvain et de Sanandra. Cette fois, l'esprit change. Non seulement la radio renaît de ses cendres, mais elle gagne en originalité et dynamisme grâce à l'initiative étudiante de ses membres.
Que tu sois dans ta chambre de bonne à Paris ou dans un loft avignonné rue des Teinturiers, tu vas maintenant découvrir une autre façon de faire de la radio.
Fini les cours magistraux, place à une toute nouvelle approche. Marathon radiophonique de 48 heures à Avignon, émission concept audacieux et des tops sonores et jingles qui déchirent.
Femme au bord de la crise de nerfs.
Les femmes à poil.
Et des hommes qui essaient de leur échapper.
Mais ce n'est pas encore le dernier chapitre. Et oui, Victor Cousin aurait été fier de voir cette évolution de Radio Sorbonne en trois tons façon disserte. En octobre 2020, une nouvelle étape est franchie. Juliette signe la troisième version de l'association qui prend désormais le nom que nous connaissons tous aujourd'hui, Radio Sorbonne Université. RSU est désormais entre les mains des étudiants de Sorbonne Université, les podcasts et émissions se diversifient et un nouveau mantra s'impose. De la radio par les étudiants, pour les étudiants. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'est né Cours d'honneur qui depuis 4 ans représente la vie étudiante à la Sorbonne sous toutes ses formes. Un sacré destin radiophonique, en conclusion, entamé il y a presque un siècle et qu'on espère voir continuer à faire vibrer nos ondes encore longtemps.
Le groupe, merci Lavinia déjà, merci, c'était génial. Le groupe s'est créé en 2012, mais ne sera bon qu'en 2015, lorsqu'il sera rejoint par leur chanteuse, avant de redevenir mauvais en 2024, lorsqu'il sera quitté par leur chanteuse. Je parle bien sûr de l'impératrice qui a perdu sa leaduse en novembre dernier. Il y a 10 ans, on ne se doutait pas du calvaire de Fleur Benguigui. Il y a 10 ans, on n'en était peut-être pas dans les tropiques, mais on écoutait très sûrement Agitation tropicale de l'impératrice.
Cortège en partance.
êtes toujours sur Cours d'honneur dans l'amphi Richelieu, pardon, émission spéciale. Merci au public d'être là. Merci beaucoup. C'était Agitation Tropicale avec la jolie voix de Flore, Benguigui, l'ancienne chanteuse du groupe qui déclarait avoir été sous emprise pendant près de 10 ans. Elle reste une grande figure de la pop française qui nous fait voyager sous les tropiques, mais également dans le temps. Car ce soir, chers auditeurs, on vous a préparé une playlist spéciale 2015.
Et oui, on vous a aussi préparé un reportage d'excellence 2015 sur une ancienne émission du RSU, et pas des moindres.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Imaginez une émission sportive où tout est possible, où les sujets défilent au gré des envies. Juste des discussions libres, souvent drôles, parfois sérieuses, mais toujours authentiques. Voilà l'esprit de Sans Filet.
Depuis sa création, le programme a su séduire les auditeurs par sa liberté et son ambiance décontractée. Plongeons dans l'univers, dans l'envers pardon, du décor, dans les coulisses de Sans Filet, à la rencontre de ceux qui font vivre cette émission.
Sans Filet, l'émission qui matche.
Partons à la découverte de Sans Filet. Une des premières émissions, non pas de Radio Sorbonne Université, mais anciennement Radio Paris Sorbonne. Une sorte de retour vers le futur, mais dans le passé. Sport, débat, l'émission était tant appréciée pour sa spontanéité que pour son format unique. Pas de chronique ni de reportage, seulement le procès du monde du sport tous les dimanches de 21h à 22h30. Florian et Anton nous racontent les débuts de Sans Filet.
On a fait un petit brainstorming, mais je crois qu'on l'a trouvé assez rapidement. Nous, on faisait du direct, donc il y a le côté effectivement Sans Filet et le côté sportif. Et Sans Filet, tu vois, il y a Sans Filtre aussi. Et l'incarnation de ce côté Sans Filet, c'est quand même Anton, je crois.
L'esprit, c'est ce qui m'a intéressé. On fait une émission, l'idée c'est juste de parler de sport autour d'une bonne bouffe. Puis bah, ça correspondait à moi, à mon état d'esprit, de pouvoir dire un peu, déballer toutes mes bêtises et mes traits d'humour.
Ils s'appellent les zèbres.
Oui, ils s'appellent les zèbres.
Bah, on peut dire qu'on peut les rayer.
Ils viennent d'où ?
Allez, attention !
Voilà, il s'est frappé.
Cardinal est exceptionnel. Un aimant à ballon ?
Ouais. Ou sinon Cavani qui est un aimant à merde.
Ce programme marque les débuts en radio de tous ces futurs talents. Pour autant, ils n'en ont pas perdu leur caractère, ce qui a parfois relevé de sacrés défis à Paul, l'homme aux multicasquettes de Sans Filet.
Le plus compliqué, c'est juste qu'il fallait produire des jingles toutes les semaines ou des petits lancements et tout, mais en soi, après, c'était facile. Il y avait pas de... On se prenait pas trop la tête, on se tenait au courant dans la semaine, on en avait un groupe. Même le côté technique, une fois qu'on avait appris, c'était plutôt simple et c'était plus de garder une certaine, régularité déjà, que les ondes soient dispo.
Effectivement, on avait tendance quand même à très vite se disperser. Donc c'est vrai que, heureusement qu'on avait ce conducteur. Ouais, c'était fou. Et puis surtout, entre chaque interlude musical, ça nous permettait de parler de « Ah là, on va parler de ça après ». Pour nous, en tout cas, celui qui a vraiment fait le plus de boulot à ce niveau-là, c'est Paul. On arrivait quand même, mine de rien, à faire un truc cohérent.
Une belle expérience qui a duré 2 ans, 3 saisons et qui a marqué positivement tous ses membres. Absent des retrouvailles de l'équipe en raison d'un empêchement d'agenda, Zino a néanmoins tenu à évoquer avec émotion les souvenirs de Sans Filet aux côtés de ses anciens collègues.
Ça reste quand même ma première expérience radiophonique, donc j'ai énormément appris avec ces joyeux lurons. Petite dédicace toujours à Anton et ses envolées lyriques.
Goal, 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 goal,
goal, goal, goal, goal, goal. Ah, Flo, sa voix incroyable de radio.
Tous les dimanches soirs, nous parlons de sport sur Radio Paris Sorbonne. Vous êtes en direct et avec moi ce soir.
Puis Paul qui essayait malheureusement tant bien que mal de garder un cap.
Et que peut-on retenir justement de ce week-end de Ligue 1 ?
Que Canal Plus s'est fait baisser son match du vendredi soir.
Et but à Nice alors et que. Alors que le morceau vient de se terminer. Anton frappe au carreau. C'est Nice qui ouvre le score sur la pelouse du Parc des
Cyprien.
Princes. C'est Cyprien qui marque.
Mais ouais, non, c'était quand même une très très belle expérience.
Paul Clou, José, Florian, Anton, Thibaut, Damien, Paul Rouillet et Zino. 8 personnes qui se sont retrouvées autour de leur passion pour nous offrir un magnifique divertissement du dimanche soir. Au total, l'équipe de Sans Filet a réuni plus de 800 paires d'oreilles curieuses pour une trentaine d'épisodes. Parce qu'intéresser les étudiants de la Sorbonne aux performances sportives, c'était pas gagné.
Merci Elias pour ce fameux reportage et merci à tous nos prédécesseurs. C'est quoi être étudiant à la Sorbonne, mais surtout c'était quoi Radio Sorbonne il y a 10 ans, ou plutôt Radio Paris Sorbonne ?
Mais justement, Alice et son invité se chargent de nous répondre.
Oui, à quel instant voulez-vous ?
faut trouver la voie.
Ah là 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 là, dis donc, ça fait remonter le temps tout ça. Cette émission ce soir, c'est un peu un vaisseau temporel dans lequel on vous embarque pour voguer au gré des souvenirs et des récits dans le passé de RSU. Pour ce deuxième interview, on accueille maintenant une autre invitée qui revient tout droit des prémices de Radio Sorbonne pour nous parler carte sur table de son et plutôt son univers à elle.
Et oui, dis donc, Radio Sorbonne a maintenant 10 ans. Comme quoi, tout ce qui vient des années 2010 n'était pas destiné à plonger dans les limbes de l'oubli. Que le temps passe vite, chers auditeurs. Peut-être que certains d'entre vous sont branchés sur les ondes de la Sorbonne, de Radio Sorbonne depuis le commencement, c'est dingue, non ? Et aujourd'hui, sur Cour d'honneur, on n'a pas fait les choses à moitié pour l'occasion. Qui dit émission inédite, dit invitée inédite. Une invitée qui était déjà là il y a 10 ans, pas littéralement, hein, je précise, puisque nous avons l'honneur d'accueillir une des fondatrices de Radio Sorbonne. Elle est aujourd'hui géographe et game designer chez Ubisoft, mais également présidente des clubs alumni des géographes à la Sorbonne. J'ai nommé Eve Benahim. Bonsoir Eve, très heureuse de vous avoir avec nous ce soir pour fêter la première décennie de Radio Sorbonne.
Eh ben bonsoir, merci beaucoup, et j'ai appris par ton invitation que j'ai été en fait une des fondatrices. J'ignorais que c'était la première année d'existence de la radio, donc encore merci de me recevoir, ça me fait grand plaisir. Et on peut se tutoyer si tu veux.
Et grand plaisir aussi. Alors, quels sont les réflexes, les connaissances, les compétences que tu as acquises avec Radio Sorbonne, que tu utilises encore aujourd'hui ? La radio a-t-elle pu influencer, même de façon minime, ton choix de carrière ?
Alors, je dirais que peut-être j'en avais pas conscience à l'époque. Je suis rentrée de manière très spontanée dans Radio Paris-Sorbonne parce que, alors moi je venais de la campagne, je débarquais à la Sorbonne, ça me semblait immense. Il y avait plein de choses toutes nouvelles qui s'ouvraient devant moi. Et alors, je sais que Thomas a dit dans son édito que l'objectif c'était un peu de faire une révolution, voilà, de s'armer en prenant en main la radio. Alors moi, pas du tout. Je débarquais, je voulais me faire des potes. J'aimais bien la musique, j'aimais beaucoup la musique à vrai dire, et c'était un vrai plaisir de pouvoir animer une émission musicale de rock, rock à papa, rock un peu ringard maintenant je crois si je regarde en arrière parce que mes goûts sont un peu diversifiés, mais ça a été surtout une super expérience où j'ai rencontré beaucoup de personnes, et mine de rien ça m'a mis les mains dans la technique aussi sur le montage audiovisuel, sur la conception d'émissions, et quelque part aujourd'hui je retrouve encore certains de ces aspects dans mon travail où aujourd'hui bon, j'aime bien participer par exemple à des game jams, apprendre des manières de concevoir des jeux, de rentrer dans des moteurs de jeux. J'ai aussi lancé alors récemment une newsletter, et je trouve que c'est une activité finalement quand je vous écoutais parler qui ressemble un petit peu à ce que vous proposez aussi à sa manière, donc plus écrite.
Ok, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir designer de jeux vidéo?
Alors précisément, je suis pas tout à fait game designer, même si on va dire que c'est mon hobby, mais Ubisoft c'est une très grosse entreprise et donc il y a plein de personnes qui font plein de métiers. Moi je savais pas que j'allais faire ça plus tard quand j'ai fait mes études et quand j'ai grandi, mais j'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo, ça me plaisait énormément. Donc quand j'ai vu l'opportunité se présenter, j'étais super contente. Même si je pensais être à la base chercheuse en géographie, donc géographe jusqu'au bout de ma vie, et quelque part je le suis un petit peu. Ce qui m'a donné envie, c'est effectivement l'opportunité qui s'est présentée. Moi, dans mon quotidien aujourd'hui, ce que je fais, c'est plutôt que j'accompagne en fait des équipes de concepteurs, de conceptrices de jeux sur tous les sujets de sciences humaines et naturelles. Donc, en fait, je fais partie d'une équipe où il y a des historiens, il y a des experts en sciences politiques, en sciences militaires. Et donc, j'amène mes compétences en géographie. On va soutenir toutes les équipes qui contribuent à la création des univers, des mondes dans lesquels on va naviguer, des personnages, des histoires, des quêtes, des villes, des véhicules, des armes, des vêtements. Bon, on fait tout plein de choses puisqu'il y a beaucoup de besoins. Et du coup, notre travail est surtout connu pour ce qu'on fait sur Assassin's Creed puisque ça demande en fait un gros travail de recherche de ce point de vue-là. Mais en fait, on travaille aussi sur d'autres univers plus fictifs, plus fantasy. Et voilà, c'est un vrai plaisir de faire ça. C'était dur de refuser une telle offre.
Pardon. Sur ton profil LinkedIn, tu parles de world building, donc de création d'univers. Peux-tu nous résumer en quelques mots ce processus d'élaboration de monde imaginaire ?
Alors, je dirais que pour chaque jeu, finalement, il y a une approche très différente. Ce serait dur de résumer ce concept, puisque tous les jeux vont s'en emparer d'une manière différente. Quand on va jouer à Assassin's Creed, par exemple, en général, c'est souvent le contexte historique à explorer qui va être un moteur puissant dans la création de ces mondes-là, puisque c'est... donc en fait c'est des jeux, hein, pour résumer, qui nous permettent de remonter dans le temps avec une certaine véracité qu'on va rechercher dans la, ou en tout cas une certaine authenticité qu'on va rechercher dans les villes qu'on va reconstituer. Donc là typiquement ça va être la recherche qu'on fait dans la vraie vie va être un gros moteur de création dans le world building, mais dans d'autres jeux ça va prendre des formes très différentes. Dans Mario Kart, ça va être la manière dont on va s'inspirer de l'histoire de Mario pour créer des circuits. Dans je sais pas, Counter-Strike, ça va être l'inspiration dans un certain contexte géopolitique. Bon, il y a plein de raisons qui vont motiver ça, et le world building c'est vraiment tout ce qui va concourir à la création d'univers, on va dire, crédibles, denses, dans lesquels quand on va jouer à un jeu vidéo on va prendre plaisir potentiellement à passer du temps, à explorer, à se balader, à faire des choses dedans. C'est un peu la différence avec par exemple le cinéma ou les livres. Bien sûr le world building fait aussi partie de ces créations artistiques là, néanmoins dans le jeu vidéo il y a une dimension interactive, une dimension d'exploration qui fait qu'il y a un soin particulier à apporter au monde, puisqu'il y a de fortes chances que les joueurs et les joueuses se baladent dedans ensuite.
D'accord. Quels sont les défis que tu peux rencontrer au quotidien dans ta profession ? Par exemple, est-ce que la progression de l'IA est à craindre dans ton domaine ?
Alors, j'ai un rapport un peu particulier à ça, parce que alors, c'est une énième casquette, mais je fais aussi partie d'une petite équipe de R&D sur un projet qui utilise les IA génératives dans le contexte du jeu vidéo. Donc, par exemple, pour discuter avec des personnages, ça a été annoncé sous le nom de NeoNPC pour les personnes que ça intéresse, mais moi, j'ai un petit peu designé sur ce projet aussi. Je voudrais pas en dire trop parce que je voudrais pas marcher sur ce qui a pu être dit. Néanmoins, mon opinion personnelle, c'est que c'est effectivement un outil, comme le précisait tout à l'heure l'invité à ma droite. Disons que ça dépend, je pense, des fins avec lesquelles on va l'intégrer dans un jeu. Il y a des manières en fait dont on a utilisé des formes de création qui peuvent se rapprocher de l'IA générative, sans pour autant que ça ait amoindri la qualité des jeux. Je pense à tous les jeux qui font usage, par exemple, de la génération procédurale de niveau. C'est Minecraft, par exemple. Vous voyez plein de cubes. Les cubes, ils sont générés procéduralement. Chaque partie, elle est différente. Et la manière dont c'est calculé, c'est que y a un pourcentage de chances que chaque cube d'une certaine nature va se retrouver à côté d'un autre. D'une autre nature. Donc bon, ça c'est typiquement c'est des exemples de choses qui finalement se rapprochent un petit peu, parce qu'il y a une génération qui est faite de la Gen AI. Je pense que utiliser comme ça en fait ça peut être assez positif, mais le tout c'est de concevoir une expérience qui va vraiment intégrer ça comme un outil et une partie intégrante de l'expérience de jeu, et pas pour amoindrir la qualité en faisant passer certaines tâches dessus. Voilà, un peu rapidement. Donc je dirais que c'est pas forcément un défi. Les défis que je rencontre, c'est plutôt en fait la variété des publics avec lesquels on va travailler. Assassin's Creed, c'est une production qui peut faire 900 personnes, 1000 personnes, avec à peu près tous des métiers différents. Et la plupart d'entre eux, voire aucun d'entre eux, en fait, sont géographes ou historiens ou experts en sciences politiques. Donc nous, il y a un vrai travail de médiation et de pédagogie à mettre en place. Et en plus, on parle pas du tout à quelqu'un qui fait de la programmation. Comme on va parler à un artiste ou à quelqu'un dans la narration, en fait, c'est vraiment des personnes qui ont des manières de raisonner très différentes. Et voilà, si je bassine le programmeur avec mes histoires de coutumes, par exemple médiévales ou antiques, peut-être qu'il va s'en foutre. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que la hache viking, elle va plus fort dans le crâne que l'épée viking. Voilà, il va falloir trouver comment est-ce qu'on s'adresse à chacun de ces publics. Et c'est un défi, mais c'est super intéressant.
Tu travailles donc chez Ubisoft depuis 4 ans maintenant, si je ne me trompe pas.
5.
Le temps passe vite, dis donc.
Beaucoup trop.
Peux-tu nous parler des jeux sur lesquels tu as déjà eu l'occasion de travailler et qui sont déjà sortis ? Nous parler par exemple de ton travail de création lors de leur élaboration, comme le jeu Violet par exemple, il me semble, ou alors Requinquante, qui est ton premier jeu.
Alors ça, c'est ce que tu cites. En fait, c'est des jeux que j'avais fait justement dans le contexte de Game Jam. Donc c'est des petites productions individuelles, c'est pas du tout dans le contexte d'Ubisoft. C'était des trucs pour rigoler le week-end, un peu comme à l'époque de Radio Paris-Sorbonne, comme on le faisait dans la chambre ou dans la salle de la BU. J'ai pas travaillé sur finalement beaucoup de jeux qui sont sortis parce que ça prend beaucoup de temps. Néanmoins, je peux quand même dire que j'ai passé 8 heures cette semaine à jouer à Anno Pax Romana, qui va sortir très prochainement, sur lequel j'ai fait du soutien sur la géographie de l'Empire romain. Voilà. Et c'était très passionnant, j'ai adoré jouer au jeu. Donc quand vous le découvrirez d'ici quelques mois, j'espère qu'il vous plaira autant que moi.
Et enfin, parce que le temps passe trop vite et que j'ai un problème avec les timings, avant de nous quitter, la question signature de cours d'honneur, que représente la Sorbonne pour toi ?
Un endroit qui m'est aussi très, très familier, que j'aime beaucoup, où j'adore venir et revenir. Je suis hyper contente de pouvoir prolonger mon investissement par le club des géographes, puisque du coup c'est l'occasion de rester en contact avec toutes les personnes super intéressantes que j'avais rencontrées à l'époque, mais aussi d'autres personnes issues de la géographie que je connaissais pas forcément. Et c'est super de voir comment est-ce que, même en étant sortie du circuit de la recherche, on peut continuer à organiser des événements, des conférences, des tables rondes sur ces sujets scientifiques qui, finalement, en tant que géographe, continuent beaucoup de nous rassembler, qu'on soit cartographe, qu'on soit dans la prévention des risques, dans l'urbanisme ou dans la géographie humaine et culturelle. En fait, on continue, mine de rien, de maintenir des activités de recherche dans le monde pro. Et c'est génial de pouvoir continuer à se rassembler pour prolonger ce lien.
Eh bien, merci beaucoup, Eve Benaïm, d'être venue ce soir pour nous parler de votre parcours et de votre métier qui nous a tant fait voyager pendant cette interview et qui, je le pense, en a rendu plus d'un envieux ce soir. J'encourage les auditeurs à aller écouter sur YouTube votre conférence « Monde virtuel, monde réel » publiée par Atlan Game le 17 juin 2024 et ainsi qu'à aller découvrir par la même occasion du coup le jeu Anno. Qui...
Ouais, alors, ouais. Anno Pax Romana, voilà. Il n'est pas encore Pax sorti, Romana. Mais très bientôt.
Quand il sortira, il faudra que vous alliez le voir. Eve Benaïm, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. À bientôt, peut-être.
Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée.
Merci beaucoup. On va maintenant écouter un single qui est sorti avant son album, qui mélange hip-hop et rock'n'roll et qui allie un chanteur irlandais à un rappeur ricain. Ce ne sont qu'autres que Macklemore et son ancien photographe Ryan Lewis pour nous servir un classique de 2015. On a des basses Jay-Z, des percussions rétro, un flow entraînant, on a Downtown sur Cours d'honneur.
Went to the moped store, said fuck it. And salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
I got the one for you, follow me.
Ooh, it's too real, chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed
downtown, cruising through the alley. Tiptoeing in the street like ballet. Pulled up, moped to the valet. White walls on the wheels like mayonnaise. Dope, my crew is ill. And all we need is two good wheels. Got gas in the tank, cash in the bank, and a bad little mama with the ass in my face. I'ma lick that, stick that, break her off, kick that, snuck her in backstage. You don't need a wristband, dope.
Killing the game, about to catch a body. Past the heartbeat, dookie on the Ducati. Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman. Goddamn, man, everybody got Bugattis. But I'ma keep a hella 1987. Head into the dealership and drop a stack and cop a Kawasaki. I'm stunning on everybody. Hella raw pesto wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather, our bottom line is pleather. But girl, we can still ride together. You don't need an Uber, you don't need a cab. Fuck a bus pass, you got a moped, man. She got 1988 Mariah Carey hair. Very rare, mom jeans on her dairy. Throwing up the west side as we tear in the air. Stop by Pipe Place, throwing fish to a player.
Downtown, downtown,
downtown,
downtown,
downtown. C'était Downtown de Macklemore. On est d'ailleurs nous aussi en centre-ville, mais surtout en plein cœur de la Sorbonne, lieu d'apprentissage et d'échange. Et c'est bien pour ça que l'on reçoit aujourd'hui un de ces illustres professeurs. Tout de suite, place à l'interview d'André Thibault, professeur de linguistique de la Faculté des Lettres.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme.
Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today.
La maison s'éveille, c'est un nouveau jour.
C'est un nouveau monde.
Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour.
Love, love me, love, love.
En effet, nous avons aujourd'hui Monsieur André Thibault, professeur de linguistique française à Sorbonne Université et spécialiste reconnu du français en francophonie. Votre parcours est marqué par une approche pluridisciplinaire des langues romanes. Après une licence et une maîtrise en linguistique française et espagnole à l'Université de Laval, au Québec, vous avez poursuivi un doctorat en linguistique hispanique à l'Université de Lausanne et obtenu une habilitation en linguistique gallo-romane. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à un sujet qui nous concerne tous, le rôle de la radio dans la diffusion et l'image de la langue française. Avec plus de 40 millions d'auditeurs sur tout support confondu, la radio demeure toujours un médium incontournable, un espace où la langue se façonne, s'écoute et même parfois se transforme.
De l'Europe à l'Amérique, aux Antilles, vous avez analysé comment la langue française évolue et se transforme selon les contextes culturels et géographiques. La radio contribue à l'identité à l'identité linguistique et culturelle, pardon. D'après vous, quel rôle aujourd'hui la radio dans la perception et la diffusion du français joue la radio ? La radio, est-ce qu'elle contribue à promouvoir une image unifiée de la langue ou au contraire met-elle en avant sa diversité ?
Eh bien, les deux. Si vous voulez, les médias ont joué un rôle extrêmement important, les médias électroniques, la radio d'abord, la télévision ensuite, ont joué un rôle extrêmement important dans l'évolution des langues en général depuis leur apparition. D'une part, bien sûr, un rôle qui va dans le sens d'une certaine homogénéisation, ça c'est sûr. En même temps, de nos jours, il y a énormément de créneaux possibles. Il n'y a pas qu'une seule voix au début, hein. Bon, vous ne savez pas parce que vous n'étiez pas là, même moi je ne suis pas si vieux que ça, mais au début vous savez il y avait très peu de chaînes de radio, il y avait quand j'étais tout petit peut-être juste 2 ou 3 chaînes de télé, maintenant il y a une explosion, donc cet effet unificateur était certainement beaucoup plus fort au début, et je crois que maintenant avec cette explosion des supports, il est possible de faire entendre plusieurs voix. On parlait justement de votre radio étudiante. Quand vous adressez à un public ici, je suppose que vous posez la question du public, vous vous dites bah, c'est peut-être plutôt à des étudiants qu'on s'adresse comme nous, donc peut-être que pour créer une certaine connivence on va plutôt essayer de parler la même langue qu'eux, c'est tout à fait normal. Vous ne vous exprimez pas exactement comme si vous étiez en train de lire le journal de 20h. Ça n'aurait pas été possible à l'époque où il y avait très peu de chaînes de radio, très peu de chaînes de télé. Maintenant, il y a quand même une explosion de l'offre, ce qui permet quand même, je crois, de diversifier les façons de parler que l'on est amené à entendre. Maintenant, c'est vrai que il y a des choses. Enfin, peut-être que là j'empiète sur les questions que vous voulez me poser après. Mais est-ce que c'est normal aujourd'hui en France d'entendre des accents régionaux très forts, des accents de certaines classes sociales très forts, des accents de certains groupes ethniques très forts? Encore une fois, ça dépend de qui parle, à quel public, de quoi on parle et avec quelle intention. Si vous lisez le journal de 20h, vous vous adressez évidemment à un public maximal. Donc vous allez essayer de neutraliser autant que possible tout ce qui pourrait sembler marqué dans votre façon de vous exprimer. Qu'est-ce que c'est ce français neutre ? C'est pas vraiment écrit ou que ce soit. L'Académie française ne dit pas « voici la transcription phonétique de ce mot, vous devez la respecter » parce qu'il n'y a aucune transcription phonétique, je vous le dis en primeur, dans les dictionnaires de l'Académie française. Il y a comme une espèce de mouvement qui se fait spontanément, qui fait en sorte que chacun, chacune voit un petit peu midi à sa porte et s'est fait sa propre idée de ce que c'est qu'une façon neutre de s'exprimer en français, dans certaines circonstances. On ne parle pas de la même façon, évidemment, à la télé, à la radio, que si on est en train de prendre une bière avec ses amis. Ça, c'est une espèce de négociation sociale qui se fait tout le temps, qui évolue d'une génération à l'autre, même, je dirais, d'une décennie à l'autre, ça va très vite. Il y a des choses... Enfin, j'étais extrêmement content d'entendre l'accent de Bachelard tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il roulait son R. Ça m'a énormément, énormément réjoui. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Comme quoi, là, on a un véritable exemple d'évolution de la prononciation du français. Le R apical, c'est comme ça qu'on l'appelle techniquement, le R roulé, était beaucoup plus fréquent autrefois. Il a énormément reculé de nos jours. C'est peut-être pas la même chose dans tous les pays. C'est vrai que la France est un pays extrêmement centralisé. Donc par la force des choses, ce qui passe pour neutre dans les médias, qui sont tous en grande région parisienne, risque de ressembler davantage à ce que l'on parle en région parisienne qu'à ce que l'on parle, disons, sur les pourtours de l'Hexagone. Dans un pays voisin comme l'Allemagne, par exemple, qui est une fédération, il y a beaucoup plus de place pour la variation régionale. C'est normal pour des journalistes bavarois, par exemple, de parler avec un petit accent bavarois. Mais encore une fois, on n'est pas dans le binaire. C'est pas qu'on a un accent ou qu'on n'en a pas du tout.
On peut avoir plus ou moins d'accent, on peut jouer avec son accent, on peut parler avec un accent, mais sans que ça nuise nécessairement à la transmission du message. Le contraire étant tout aussi vrai. Alors quand je parle d'un journaliste bavarois qui roule CR, comme Bachelard tout à l'heure, eh ben oui, il roule CR, mais il a quand même une diction qui fait en sorte qu'on comprend parfaitement ce qu'il a à dire. Donc il ne faut pas non plus mettre un petit signe d'équivalence entre avoir un accent et être inaudible. Je crois que la raison pour laquelle on n'aime pas les accents régionaux en France, c'est que l'on a l'impression que ça, c'est du bruit dans le message, que ça vient parasiter le message, que ça fait en sorte que les gens vont écouter la façon dont vous parlez plutôt que d'écouter ce que vous avez à dire. Et ce n'est probablement pas faux, mais ce n'est pas... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen d'y remédier. Ce n'est pas irrémédiable, dans la mesure où je crois que si on prenait l'habitude d'entendre davantage de variations des accents régionaux, des accents sociaux, etc., etc., on s'habituerait.
Hein. Justement, oui, vos travaux explorent l'évolution du français en francophonie depuis ses racines historiques jusqu'à ses variations régionales, notamment en Amérique, en France, en Suisse et en Belgique. Vous avez d'ailleurs co-publié en 2022 avec France Martineau et Wim Rimsens. Désolée si je prononce mal. Un ouvrage qui s'intitule Le français au Québec et en Amérique du Nord aux éditions Orphis. D'après cet ouvrage qui explore les spécificités du français nord-américain, en quoi la radio québécoise joue-t-elle un rôle différent dans la radio française dans la représentation et la préservation de la langue française?
Ah, c'est une très belle question, vous ne m'avez pas dit que vous alliez me la poser, mais c'est très bien. J'ai un jeune collègue qui s'appelle Marc Chalier, qui a été recruté l'an dernier comme maître de conf chez nous, qui a fait une thèse justement sur le français standard de la radio en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Donc l'an prochain, vous l'inviterez, mais comme j'ai lu sa thèse, je peux vous en parler quand même un peu. C'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a des standards nationaux qui voient le jour, c'est-à-dire que Genève, Bruxelles ou Montréal, par rapport à Paris, ne sont pas dans la même relation d'infériorité hiérarchique que Marseille, par exemple. Ce qui fait que ce qui est considéré comme un accent neutre et acceptable et agréable pour le public, c'est pas la même chose en Suisse qu'en Belgique qu'au Canada. C'est-à-dire qu'il y a une façon de s'exprimer. Il y a une façon de s'exprimer en français québécois à la radio, je le fais là parce que moi je suis québécois, que là vous allez parfaitement comprendre tout ce que je dis là, parce que je parle lentement, là, mais vous entendez que j'ai pas du tout le même accent. Ça c'est la façon normale de parler en français québécois à la radio québécoise. C'est pas du gros joual comme on dit chez nous, c'est-à-dire du mauvais français québécois basilectal, là, mais c'est du français là, qui est fait pour être compréhensible. À la radio, vous me comprenez là, hein? Oui, merci de dire oui, sinon j'ai peur. Là. Donc, et je ne vais évidemment pas essayer de faire un accent suisse ni un accent belge, mais ça serait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le standard québécois, il y a le standard suisse, il y a le standard belge, et ça c'est rendu possible par le fait que ce sont des pays indépendants, alors qu'à l'intérieur de la France, c'est vrai que... Bon, je vous avoue, j'ai jamais vécu dans le sud, mais je vis à Strasbourg depuis longtemps, et si j'écoute la radio strasbourgeoise, j'entends pas du tout l'accent strasbourgeois.
C'est plus allemand, finalement.
Non, il parle en français neutralisé, à Strasbourg. Si vous entendez, mon Dieu. Strasbourg, alors, c'est en France, je vous rappelle. Hein. C'est en France, c'est en Alsace, c'est pas en Allemagne.
Dernière question. Oui, je voulais intervenir parce que j'ai eu la chance d'être, quand j'étais plus jeune, stagiaire dans une radio communautaire aux îles de la Madeleine.
Et donc,
il y a aussi la langue de la radio qui défend un certain français, une certaine particularité. J'étais parmi les Acadiens et il fallait défendre cette langue. Donc la radio, c'est ça aussi.
Oui, les Acadiens sont en position minoritaire et pour eux, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Nous, au Québec, on est majoritaire comme francophone, mais d'avoir nos institutions... La télé en français, la radio en français, ça a été pour les québécois un instrument, un outil extrêmement important de notre évolution en tant que peuple. Oui, absolument.
Véritablement engagé dans la valorisation du français sur toutes ses formes. Vous êtes également co-directeur de la revue linguistique romane et directeur de thèse. Alors, une question. Avec le développement des podcasts et des radios diversifiées sur tous les médias en ligne, la manière dont on consomme la radio change. Pensez-vous que ces nouveaux formats plus amateurs influencent la manière dont le français est parlé et perçu ?
Parler peut-être pas, perçu, c'est possible. C'est-à-dire que avec l'explosion de toutes ces nouvelles plateformes, il y a des façons de s'exprimer dans l'espace public qui maintenant circulent. On peut avoir des millions de followers sur les réseaux sociaux et s'exprimer comme on veut finalement. À l'époque de l'ORTF dans les années 50, enfin c'est sûr qu'on n'en était pas là, hein. Donc de ce point de vue là je crois que ça va dans le sens de ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Dans un premier temps, les médias ont été des facteurs d'homogénéisation et maintenant il y a plutôt une espèce de mosaïque d'usage très varié à laquelle on insiste.
Dernière question, que représente la Sorbonne pour vous rapidement?
Alors, on me l'a demandé l'an dernier, donc je réponds la même chose que l'an dernier. Une maison qui m'a accueilli à bras ouverts. Bon, la Sorbonne est mon UFR de langue française aussi, je remercie tous mes collègues. Moi qui viens de très 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 loin, je pense que c'est un signe d'ouverture.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes toujours sur Cours d'honneur sur Radio Campus Paris, il est 20h56.
Vous le savez, dans Cours d'honneur, on aime vous balader dans notre quartier le 5e, sur la rive gauche où l'on pense.
Plutôt que sur la rive droite où l'on dépense.
Mais aussi vous balader dans notre fac et ses campus.
C'est maintenant l'heure de la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Quelle meilleure occasion que celle de ce soir pour revenir sur certaines des toutes premières émissions de Radio Sorbonne, 2014, 2015, 2016. Dans cette carte postale sonore, Maria Florencia a encapsulé les moments magiques de l'association, des premiers bégaiements aux premiers éclats de rire.
Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs, vous écoutez La Vie des Autres sur Radio Paris Sorbonne.
Bienvenue dans Deep Session, le programme pour tous les mordus d'électro et plus si affinités, tous les jeudis soirs de 22 à 23h.
Bienvenue sur l'émission La Pomponnière, l'émission qui vous pouponne, qui vous fait du bien, l'émission des sorties culturelles de l'université Paris 4 Sorbonne, qui vous pousse à sortir de chez vous.
Le Grand Ramdam est le nouveau magazine culturel et pluridisciplinaire de Radio Paris Sorbonne. Nous tenterons, deux fois par mois, de vous présenter de nouveaux créateurs qui font l'actualité et qui nous ont interpellés.
Est-ce que les jeunes sont encore intéressés par la culture ? C'est un sujet qui semble faire débat actuellement. Philo Sorbonne, notre émission, va débattre de la question autour de ce plateau afin de défendre l'image de la jeunesse.
Bienvenue sur Play It Again Sam, l'émission des nouvelles narrations où un personnage rejoue pour vous sa vie vidéoludique.
Voilà l'opportunité. Allez-y, puisque vous êtes si brillant, monsieur Molière, allez-y. Montrez-nous de quoi votre plume est capable.
Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes sur le bout de la plume, vous êtes sur l'émission littéraire des rats de bibliothèque de la Sorbonne, l'émission qui entend faire sortir les œuvres de l'Empire Richelieu de Cluny-la-Sorbonne pour les faire rentrer dans votre radio.
Répliquez, c'est une émission de théâtre. Elle vous propose chaque mois de rencontrer une compagnie de théâtre et des professionnels du monde du spectacle.
Bienvenue sur Radio Sorbonne pour Rock Collection, votre nouvelle émission musique, jazz, blues, rock et métal très subversive. Le principe est simple. Chaque semaine ou pendant plusieurs semaines, on abordera un thème de notre choix qui recoupera un ou plusieurs des styles qu'on a mentionnés.
Nous sera pas mis à l'écart, car les spectateurs, ce sont vous, et nous irons souvent recueillir vos propos, vos impressions, vos opinions aux quatre coins de la Sorbonne.
J'étais assez surprise et assez contente, alors que j'avais un peu des a priori, parce que je pensais que ça allait être un peu spécial, que ça allait pas me toucher, finalement, si.
Comme vous le savez, souvent, dans notre société, surtout en tant qu'étudiant, on est amené à débattre et à exposer notre avis. Et on le fait parfois sans vraiment chercher à approfondir celui de l'autre. Ou à l'inverse, il arrive qu'on ait l'impression d'être tous d'accord sur des choses qui sont complexes et qui ont tellement de revers qu'on n'arrive pas à creuser ou à parler en profondeur comme on le voudrait. Notre émission ne consistera pas à se perdre dans des affirmations, c'est une émission qui repose avant tout sur l'avis des autres.
Écrire, c'est dire. Voilà ce qui rapproche la radio du théâtre. Pour cette première émission, il a fallu tout tracer, mot par mot, minute par minute, pour finalement mieux s'en affranchir. Et comme les comédiens, on finit par connaître son texte par cœur. On finit par donner vie aux mots couchés sur papier, on les laisse s'envoler, oralité.
Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine, et surtout, sortez de votre lit!
On remercie hein, Maria Florencia qui n'est pas là ce soir, qui est au Brésil actuellement, sous les tropiques, pour cette rétrospective radiophonique. Radio Sorbonne, la première radio étudiante de la première fac de France, s'ouvre à la province, à la France quoi. À leur spécialité régionale, leur registre, leur accent, tout de suite, Swann reçoit deux compères qui nous ramènent leur humour et leur amour pour leur région et ses traditions, les Jobastres. Alors, tradition d'accent ou celle ancrée dans le temps, est-ce que Radio Sorbonne parviendra à surmonter la rivalité légendaire Paris-Marseille, PSG-OM ? De la radio à YouTube, ils transcendent les normes et suivent leurs propres règles non conformes.
Magnifique. Vous faites du sport ?
Même pas.
Super.
Disons que j'ai un bon pédigré.
J'aurais bien aimé faire cette intro avec l'accent marseillais, comme vous tenez si bien à nous l'inculquer par votre page Insta. Bon, j'avais trop peur de tenir l'accent juste toulousain et en fait de vous insulter. Donc je vais rester avec ma cadence plate et monotone de vendéenne, non de parisienne. Et oui, parce qu'ici, on a tous l'accent parisien. Mais justement, est-ce qu'on ne devrait pas assumer nos accents en radio, imposer nos tché, nos eng entre deux chroniques et couper nos un à la fin des mots Romano et Balicus, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, ravi d'être là.
Mais ravi que vous soyez là, vous êtes là donc aujourd'hui pour nous parler de votre travail, mais surtout de votre combat pour rendre les médias plus justes en élocution. Votre parcours est tarpin chargé, mais nous ici on retient surtout vos passages en radio parce que déjà c'était des gaines et c'est surtout parce que vous ne pouviez pas encore en imposer, vous, votre personne et votre personnalité. Alors, fun fact, Avignon était votre dernier choix post-bac et pourtant c'est là que tout a commencé. Comment est-ce que ce parcours universitaire il a façonné votre aventure ?
Bon, déjà, bravo pour cette introduction qui est formidable. Vous nous avez mis dans les meilleures des conditions.
Cousu humain, comme
ça. Ah ouais, vraiment, bravo. Nous, ben, l'Université d'Avignon, ben, c'est déjà le lieu de la rencontre entre Balicus et moi-même, deux étudiants qui étaient amérantes. Et en fait, la radio de l'Université d'Avignon, Radio Campus Avignon, ça a été un peu le lieu de la rencontre et dans lequel on a façonné, en fait, notre univers de jeunes étudiants. Et en fait, on avait une folie. Parce que les Jobastres, c'est quoi en fait hein, c'est la folie hein, à l'état pur. C'est vraiment le degré ultime du fada. Et en fait, cette folie, il fallait la canaliser, la mettre au service de quelque chose. Et en fait, l'Université d'Avignon, et notamment la radio campus de l'université, nous a permis de canaliser et Balicus cette énergie.
Bah, je crois que ce qu'on a toujours cherché à avoir avec Romano, c'était un prétexte. Et je pense que ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on fait, même son métier, ça devrait être un prétexte juste pour s'épanouir. Donc nous, on avait envie de créer, on avait, comme l'a dit Romano, des idées plein la tête. On avait juste besoin d'un prétexte pour les réaliser. Et ben, on s'est retrouvés à 18-20 ans, étudiants, avoir envie de faire plein de choses. Et il y avait une radio qui était là. Et avec cette radio, ben, on a fait un moulon de choses. On est parti couvrir le Festival d'Avignon. Et on avait les portes ouvertes partout. Et ça, c'était chouette. On a pu partir en Erasmus, faire de la radio en Angleterre. On a pu partir à Strasbourg, en France.
C'est ça.
Pour faire de la radio au Parlement européen. On a rencontré Thomas, qui est aussi un éminent membre de cette radio. Donc en fait, on a vécu plein d'aventures et la radio, ça a été ce prétexte, ce ciment où à la fois on s'est épanoui amicalement, vu que j'ai rencontré mon meilleur ami là-bas, et professionnellement, on a fait nos armes.
Ah bah c'est énorme parce que en fait aujourd'hui tout ce qu'on fait, les jobas, ce n'est que le prolongement de ce qu'on faisait quand on était étudiant. Donc quand on vous voit là face à nous, on se dit mais c'est incroyable parce qu'il y a 10 ans on était comme vous, sans savoir qu'on allait créer les jobas qui sont aujourd'hui cette, on va dire, boîte de création, de production 100% provençale.
Oui. On peut le dire, les jobas c'est le prolongement de ce que vous avez à Radio Campus Avignon. Ça veut dire que peut-être que là vous ne le savez pas, mais vous avez peut-être votre futur associé, votre futur projet, vous allez continuer à faire les mêmes choses, on ne sait pas.
Alors justement, en 2017, vous refusez un CDD chez Canal+ pour créer les Jobastres. Donc, c'est un Canal+ à la provençale, comme vous le dites bien. C'est un nom assez péjoratif parce que vous êtes plutôt indocile qu'imbécile. Mais surtout, pourquoi ce désir fou d'abandonner la radio pour aller sur YouTube ?
Je pense que le besoin qu'on avait, c'était la liberté, en fait. On cherchait notre liberté créative. C'est-à-dire que on en a parlé en off pour préparer cette émission, mais nous, à Canal+, on était bien évidemment à notre place. Parce que, imaginez le jeune que je suis de la campagne, venant d'Aubagne, petit village de Marcel Pagnol, quand j'ai dit à mes grands-parents que je montais à la capitale pour travailler à Canal+. C'était incroyable. Le petit, il a réussi. Oh putain, c'est incroyable. Mais sauf que moi, oui, sur le papier, en théorie, c'est formidable. Mais en réalité, toutes les idées créatives qu'on avait étaient bridées par le format Canal+, la couleur Canal+.
Oui, bah, surtout qu'on a eu le malheur d'arriver juste après l'arrivée de Bolloré à Canal. Donc si tu veux, l'esprit Canal, il était mort, enterré dans l'œuf et détruit. Ça veut dire que l'anecdote qu'on donne toujours avec Romano, qui est terrible, on se retrouvait là la semaine où tout le monde partait au Festival de Cannes, les locaux de Canal+, vides, il y avait des gains, comme on dit chez nous, tout le matériel, les ordinateurs avec les monteurs qui attendaient du travail. Et nous, on disait, ben les gars, on a Tarpendit dans la valise, on les prend, on fait des formats, vous les aimez trop bien, vous les aimez pas, on les détruit. Et en gros, la hiérarchie te dit non, il y a le protocole, on fait pas sortir les CDD, on fait pas sortir les pigistes, donc vous restez là et vous faites ce qui était le plus terrible pour nous, semblant de travailler, parce qu'il y avait plus rien à faire. Oui. Donc reste sur ton ordi, tape des mots à la con sur ton clavier. Et surtout, 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 ne sors pas du cadre qui t'a été imposé.
Exactement. Sois dans la norme et fais le moins de traces, de pas de côté. Et en fait, nous, là, on s'est dit, OK, là, on va justement exprimer notre côté jobastre et on va créer notre entreprise sur les bureaux de Canal+. Donc, en fait, pour la petite anecdote, les statues des jobastres, on les a créées sur les ordis de Canal+. Donc, on remercie Canal+. Et justement, on a dit, on rentre chez nous en Provence avec un projet qui a plus de sens pour parler de quelque chose qui nous est profond, qui nous est cher, c'est-à-dire l'identité provençale, ce qu'on est en fait.
Et je crois que là, pour faire un parallèle avec ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur les discours médiatiques, etc., il y a une chance qu'il y a à notre époque, qui n'existait pas il y a quelques années, c'est qu'il y a une pluralité du discours médiatique. Et du coup, tu n'es plus obligé de te standardiser à ce qui est demandé. Tu peux créer ton propre média. Bien sûr que les créateurs de contenu et les gens sur Internet ne remplaceront jamais le travail des journalistes. Mais par contre, c'est ultra complémentaire parce que nous, on peut décider de ce qu'on veut raconter, comment on veut le raconter et on a une audience. On n'est plus obligé de passer par des, on va dire, institutions standardisées qui t'obligent à tenir un discours policé, à gommer ton accent, puisque bah oui, sans certains médias, on pourra peut-être en parler, mais on nous a obligés de gommer notre accent. Mais nous, en fait, on parle avec le cœur comme on a envie de dire les choses. Et c'est ultra complémentaire. Ça, c'est une chance de notre époque.
On va pas couper les questions de Swan, qui va peut-être y arriver.
Alors justement, notre invité André Thibault a évoqué la présence récente des accents régionaux dans les radios. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'on en entend de plus en plus des accents régionaux ?
J'aimerais, c'est le souhait qu'on a, nous, c'est le discours qu'on prône sur les réseaux sociaux, c'est en gros, soyez vous-même et travaillez votre singularité, parce que finalement, votre accent, c'est quoi ? C'est votre carte d'identité. Et moi, je sais que je l'ai défendu depuis tout petit. À l'époque, bon, je travaillais sur France Bleu Provence et j'avais une grande problématique, c'est-à-dire qu'on aimait mon énergie, on aimait mon côté animateur, ambianceur, mais par contre, on me disait, garde la couleur bleue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, moi, ça m'a toujours questionné. Ça veut dire quoi, la couleur bleue, en fait? Parce que moi, la couleur, c'est la couleur que j'ai à l'intérieur. C'est Romain qui je suis, en fait, avec mon histoire. Et finalement, c'est mon histoire, d'ailleurs, qui, je sais, interpeller les auditeurs, parce que j'avais beaucoup de retours auditeurs qui me disaient, oh, qu'est-ce qu'on aime cet accent, j'entends, en plus, qui plus est, sur France Bleu Provence. Allez-y, en fait, avec votre accent. Et ce qui est énorme, c'est qu'aujourd'hui, on porte ça sur les réseaux et on reçoit beaucoup de messages en privé de gens qui nous disent « Mon Dieu, vous me faites du bien parce que grâce à vous, ça y est, je l'assume. Avant, je le cachais, mais grâce à vous, maintenant, je suis fier de mon accent. » Et nous, c'est un peu ce qu'on essaie de dire, c'est que aujourd'hui, en fait, c'est votre singularité. Soyez singulier. Faites le pas de côté et soyez vous-même. Cherchez pas à correspondre à un moule et faire comme tout le monde.
Et je me permets de compléter sur un truc qui est parfait intéressant aussi. Vous dites qu'on a un accent et qu'à Paris, vous n'avez pas d'accent, mais en fait, c'est qu'une question de perspective, parce que pour moi, vous avez tous un accent. Et en fait, de dire il y a un accent neutre et en fait, on devrait parler tous pointus comme ça, mais pour moi, c'est un effort de gommer toutes les prononciations que j'ai. Et ben oui, il n'y a pas un accent dominant, justement, au contraire.
Et nous, on prône pour l'accent provençal du Sud, mais en fait, qu'est-ce qu'on se régale d'entendre les accents strasbourgeois du Nord, de Bretagne, au contraire, en fait. C'est un échange culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une domination d'une culture ou d'une langue, mais au contraire, il y a une forme de mixité culturelle qui est juste formidable. Nous, on se nourrit de ça. D'ailleurs, on fait beaucoup de collaborations avec d'autres créateurs de contenu de régions qui sont les Jobastres de Bretagne, les Jobastres de Corse, et qui sont fiers, justement, de leur accent.
Je dirais même très rapidement que tout à l'heure on disait que c'était du bruit dans l'information. Je trouve qu'au contraire, ça rajoute des données dans l'information. Ça veut dire que la manière dont tu parles, la manière dont tu prononces des mots, ça rajoute de l'information complémentaire sur qui t'es, ce que tu racontes, ce que tu veux, ton histoire, ton passé. Comme disait Romain, ta carte d'identité, quoi.
Alors, droit de réponse à André Thibault qui va répondre à ça.
Oui, techniquement, on appelle ça des indices dans la transmission du message. Oui, tout à fait. C'est parce qu'on a maintenant un éclatement des surfaces, des médias, qu'on peut donner toute cette place. Je le disais tout à l'heure, le RTF en 1950, on n'aurait pas pu. Enfin, c'est merveilleux d'avoir le mec qui est devant son téléphone et qui a des millions d'abonnés, mais il s'en fout complètement, il obéit à personne. Alors qu'il y a quand même des médias, on se l'est assez souvent fait dire, qui n'engageront jamais quelqu'un qui a un fort accent régional. Mais aujourd'hui, en 2025, on s'en fout. C'est plus grave parce que le mec, il a des millions d'abonnés sur les réseaux XYZ, la télé. Bon, j'étais contente tout à l'heure de vous entendre dire qu'il y a quand même des gens qui écoutent encore la télé, mais il y a un petit peu cette idée quand même, pour se moquer de la télé, de dire « mais c'est un truc de vieux ». Mais les jeunes, ils écoutent plus du tout la télé. Et je sais pas quelles sont exactement les statistiques, hein, mais c'est vrai quand même que, avec tous ces gens qui ont des millions et des millions d'abonnés, on est bien obligé d'admettre qu'il n'y a plus que la télé et qu'il y a une liberté créatrice sur ces supports-là qui n'existait pas avant. Je passe le micro, si vous le voulez bien, à ma collègue.
Oui, je voulais réagir. En fait, la télé enregistre ces changements. Elle est obligée, hein, si elle veut aller chercher les gens, les vrais gens, et créer l'audience, elle est obligée d'enregistrer ces transformations. Et puis, on vient tous de quelque part, hein. Moi, quand je suis arrivée ici à Paris, j'étais très normande et j'ai prononcé les dieux et les dieux très très fort. Et je me souviens de mon directeur de thèse qui me disait « Mais comment vous parlez ?» On dit « média », pas « média ». Donc, il y a aussi, au-delà de l'effet médiatique, il y a aussi les effets de correction de milieu qui se retrouvent aussi dans les médias.
Alors, les Jobastres, vous avez été étudiants à Avignon, à Manchester et un peu partout en Europe, sauf ici à la Sorbonne finalement. Vous êtes donc les mieux placés pour répondre à cette question. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Alors, j'y ai réfléchi, bien sûr, hein, parce que j'ai senti venir cette question. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire ? Pour être très franc, pour moi, c'est une expression. Pourquoi ? Parce que mon grand-père, chaque fois, il me dit, oh, ici, on n'est pas à Sorbonne, hein, pour dire, en gros, voilà, on n'est pas dans la haute société. Donc, moi, de mon point de vue, d'où je viens, donc de la campagne, juste à côté de Marseille, pour moi, la Sorbonne, c'était l'élite, c'était la réussite. Donc, la première fois que j'ai mis les pieds ici, grâce à Thomas, justement, pour cette émission-là, pour cette radio, je me suis dit, mon Dieu, ça y est, je fais partie des grands de ce monde. Voilà. Voilà ce que c'est pour moi, la Sorbonne.
Je crois qu'ils vont te tailler un buste, là, pour mettre dans une des alcôves.
Attendez, mais ça serait incroyable.
Romano, là.
Les Jobastres. Il n'y a pas Frédéric Mistral qui est ici, d'ailleurs, non ? Il n'est pas ici. Il est jamais passé par ici.
On va le rajouter.
Ah, d'accord.
Ah. Et alors, pour toi ? Ah, on en parle quand même de Frédéric Mistral. Ça va. Premier prix Nobel de littérature en langue linguistique.
Voilà, c'est important quand même de le préciser pour votre culture.
Son livre Mireille. pour moi, je dirais qu'à l'inverse de Romain, j'ai toujours eu l'analyse de l'institution séculaire. Voilà. Et en fait, grâce à notre ami Thomas Schnell, on est toujours rentré là-dedans comme si c'était, je vais te dire, un bistrot, quoi. En fait, finalement, comme on est toujours venu voir notre ami pour voir des émissions et
qu'est-ce
dire des...
Qu'est-ce qu'il dit ? Attendez, excusez-nous, on y va. Là.
Justement, c'est pas justement, possible. Mais justement, je désacralise ce lieu.
Ah oui,
finalement,
d'accord.
On n'est jamais rentré à la Sorbonne pour un truc sérieux. Finalement, on le fait là, par ricochet. Mais on est toujours venu voir notre ami à la Sorbonne.
Qu'est-ce qu'il raconte?
Et moi, ça, je trouve que c'est fabuleux.
Oui, oui, mais bien sûr. Ça, est-ce que ça vous convient comme réponse?
Pour moi, la Sorbonne, comme on dit à Marseille, c'est la famille.
Voilà. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, les Jérémas, pour votre bonne humeur et votre bienveillance. Enfin, merci.
Mais merci à vous de l'invitation. Et on termine par notre phrase. Bonne chance, compris. Ou on t'explique.
Absolument. Et je rappelle, très important, votre spectacle très prochain. On pourra vous retrouver au Quai du Rire le 30 avril. Et puis, si on ne se déplace pas, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Les Jobastres, évidemment. Et puis aussi, vous vendez des t-shirts qui font très envie. Merci beaucoup. Adéo. Alors, oui, pardon. N'oubliez pas que dans la ville, il y a des bas. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Selon le ministère de la Culture, près de 3/4 des Français écoutent quotidiennement la radio. Les plus fidèles ont entre 35 et 59 ans, tandis que les jeunes s'en délaissent. Pourtant, d'après les chiffres, plus de la moitié reste à l'écoute. Swan est allé mener son enquête auprès des étudiants. Qui écoute encore la radio? A-t-elle un avenir? Par quoi pourrait-elle être remplacée?
Bonsoir, ici Radio Riposte, la radio des socialistes de Paris.
Vous êtes bien sur 514 mètres, onde moyenne.
Ici Europe numéro 1.
Le podcast pourrait-il un jour remplacer la radio?
Je pense qu'elle a un avenir, mais minime. Dans le sens où déjà ça me surprend qu'il y ait autant de gens qui écoutent encore la radio. Les seuls qui écoutent encore la radio, c'est soit les plus vieux, soit les gens qui travaillent, qui sont dans leur voiture ou quoi. Et en fait, maintenant avec les plateformes de streaming où on peut écouter de la musique, écouter des podcasts, un peu comme YouTube a un peu remplacé la télé pour les jeunes, je pense que c'est un peu la même chose les plateformes de streaming avec la radio. Donc je pense que ça va petit à petit disparaître.
Je pense que oui, la radio elle a de l'avenir, il faut juste qu'elle fasse un peu comme la télé, parce que la télé, il y a eu un débat il y a quelques années sur le fait que les jeunes délaissaient la télé, etc. Mais je pense juste que si elle sait se renouveler et qu'elle diversifie les concepts et les plateformes, avec RSU, c'est une nouvelle génération qui prend le relais.
Alors pour moi, la radio elle a de l'avenir, parce que déjà c'est un moyen de communication qui va perdurer dans le temps. Voilà, il n'y a pas besoin d'internet ou quoi que ce soit. Et les fréquences, bah, ça reste à vie. Maintenant, depuis qu'on a des podcasts, sur nos applications, moi j'adore écouter la radio sur Spotify, les émissions radio. Donc oui, pour moi la radio elle a encore l'avenir, elle va encore perdurer.
Pour moi la radio c'est effectivement une forme de journaliste qui va énormément se développer à l'avenir, notamment qu'on peut relier au développement des podcasts par exemple. Et je trouve que c'est quelque chose qui plaît de plus en plus, notamment aux jeunes et même aux autres personnes, parce que des podcasts ou encore même des sujets de radio, ça s'écoute très facilement dans toutes les situations. Ça plaît à tout le monde, il y en a sur tous les sujets. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez universel qui peut toucher tout le monde. Et dans un contexte où aussi le journal papier disparaît de plus en plus, je pense que c'est aussi une des formes de journalisme qui peut nous permettre à l'avenir de plus en plus s'informer et d'une façon beaucoup plus facile.
Je pense que la radio a encore de l'avenir, c'est juste qu'elle prend de nouvelles formes, une resurgence des vinyles. On pourrait voir une resurgence de la radio, parce que nous les jeunes, on se rend compte aussi qu'au bout d'un moment, on a un peu envie de revenir aux bases. Parce que les réseaux sociaux et la technologie, c'est cool. Mais parfois, on a envie de retourner aux sources. Et donc, la radio, c'est pas mal pour ça.
Les gens, ils continuent d'écouter la radio en voiture, beaucoup. Par exemple, le matin, pour écouter les actualités, tout ça, le soir aussi. Et je pense que c'est surtout en voiture qu'elle est utilisée. Avant, on l'utilisait beaucoup chez nous, etc. Mais bon, maintenant, il y a la télé, il y a les téléphones, tout ça. Donc, je pense que la radio a principalement un avenir vraiment en voiture, au lieu de à la maison.
La radio, c'est quelque chose qui appartient aux générations d'avant, donc plus à la génération de nos parents, nos grands-parents. C'est une question, l'avenir de la radio, que je me suis jamais posée. Donc ça en dit un peu sur l'état de la chose, de comment on considère la chose si les personnes autour de moi partagent le même avis que moi. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire dans la voiture, c'est qu'on va écouter Spotify, on va écouter des plateformes de streaming, on va écouter des podcasts. Mais on va pas forcément se rediriger vers la radio en elle-même. Et oui, il y a vraiment un concept tout nouveau qui est le podcast qui remplace tout à fait la radio aujourd'hui.
En attendant, des passerelles se créent entre le podcast natif et la radio. Prochainement, Radio France devrait diffuser ses créations originales à l'antenne. Preuve que demain, l'un et l'autre pourraient finalement être complémentaires.
Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on va avoir un métier ou il n'y a aucun avenir pour la radio?
Non, bah, pour rebondir sur ce qu'une personne a dit, là, ce qu'on vient d'entendre sur la radio dans la voiture, je suis d'accord que moi, en tout cas, quand je suis dans ma voiture, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon téléphone pour avoir un fond sonore, mais ça sera pas forcément la radio. Par exemple, je vais mettre ma playlist de musique ou je vais mettre... ça va pas être un réflexe pour moi de mettre la radio. Et même si je mets la radio, ça veut dire qu'il faut que je trouve une radio qui me plaît à un moment où il n'y a pas de pub. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui limite un petit peu.
Et toi, Alice, est-ce que c'est un réflexe pour toi, la radio ou...
Alors, j'écoute presque jamais la radio. Et pourtant, bravo. J'en fais, mais oui, j'avoue. Okay. Mais je sais que, oui, dans la voiture, j'en écoutais avec ma maman. Puis je me souviens de mon ancien beau-père qui l'écoutait tous les matins aussi. Enfin, je pense que la radio... il y a des phases. Je pense qu'on peut redonner un coup de jeune à la radio, qu'on peut se réapproprier ce moyen de communication-là, un peu comme un réseau social, pas un réseau social, mais un moyen de communiquer, quoi. Et je pense qu'elle a encore de belles années devant elle, enfin j'espère, parce que c'est quand même chouette, sinon on ne le ferait pas. Voilà.
Et toi, Marion ?
Moi, je pense que oui, la radio va perdurer, parce que c'est un médium de culture, en fait, avant tout. Donc, moi, j'écoute surtout France Culture. La culture, c'est super important dans notre société. Et voilà.
Et toi, Lavinia, t'écoutes Radio France aussi, ou notre radio, peut-être ?
Ah oui, oui, notre radio, oui. Et, par contre, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Marion par rapport à France Culture. Nous avons aujourd'hui des applications où on peut facilement télécharger des épisodes de podcasts singuliers, et il y a une sorte d'intention derrière, dans le sens où on a tellement peu de temps disponible durant la journée, où on se dit « je n'ai pas le temps de me laisser emporter par un programme qui décide à ma place et qui me laisse surprendre ». Du coup, on va vraiment vouloir gagner le plus de temps possible. Et c'est vrai que toutes ces émissions qui ont une structure, qui ont plusieurs rubriques, qui ont des interventions différentes, c'est vrai que ça n'a plus le même attrait aujourd'hui, parce qu'on pragmatise beaucoup de nos accès, en fait, à ce média.
Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la radio une habitude ? Par exemple, le matin, en se préparant, au lieu d'écouter la musique, toujours écouter la matinale de France Inter ou Radio Nova, peu importe.
C'est peut-être un bon premier pas, parce qu'avant, on écoutait la radio comme un divertissement. Aujourd'hui, on se dit, bon, bah, là, il faut être productif, j'écoute la radio au lieu d'écouter de la musique. Bon, c'est peut-être nécessaire. Hein.
Bon, eh bien, merci à vous tous. Il est 21h21 sur Radio Campus Paris.
Et il fait donc une nuit dans l'amphi, 9 o'clock, on vous prépare un bon son dans les enceintes, et l'artiste s'y connaît puisqu'elle ne cesse pas d'être en cloc.
Comment parler des années 2015 sans évoquer la diva de l'époque, aujourd'hui businesswoman. Elle est reine de la musique, du maquillage, du marketing et de l'absentéisme. Voici Bitch Better Have My Money de Rihanna. Yeah, yeah. Mon lala. Yeah, yeah. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Play down, call me all my blood. Pay me what you want it. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of forgot. I call the shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch better have my money.
On a chauffé vos platines avec la star de la pop la plus sexe, mais vous ne risquez pas de l'entendre sur d'autres radios, étant donné qu'elle ne risque pas de sortir de son de sitôt. C'était Bitch Better Have My Money de Rihanna, la banger d'il y a 10 ans, et on l'a plus entendu chanter depuis.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
On répond à cette question un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne.
Un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Mon chéri, j'ai bien peur que notre émission soit pas si parfaite que ça.
Effectivement, on ne connaît pas les codes, ni la recette de l'émission parfaite.
Tu me demandes bien comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer.
Peut-être grâce à la chronique débrouille de Lavinia.
on prend la direction de la Sorbonne en personne.
Une émission radio, ça se concocte comment exactement? Sûrement pas comme un chef pâtissier, hein, ça demanderait trop de précision. L'alchimie d'une bonne émission, ça ne se mesure pas, ça s'invente au fur et à mesure. On fête les joyeux accidents qui en font partie un peu comme à la Bob Ross. Et au final, on se rend vite compte que le résultat est plus que mémorable grâce à une équipe de tonnerre. C'est maintenant à Lavinia de nous dévoiler les ingrédients nécessaires pour que vous puissiez, vous aussi, apprendre à faire une émission radio qui cartonne.
Loin de te faire, cher auditeur, un topo de l'équipement et des logiciels nécessaires pour lancer ton émission radio, laisse-moi plutôt te dévoiler les membres essentiels d'une équipe produisant des émissions pleines d'alchimie. Après tout, quand il s'agit de matériel, tu peux toujours t'inspirer des débuts modestes de Radio Paris Sorbonne. Hop, un simple zoom posé au milieu de la table en comptant sur le charisme des participants pour compenser la qualité audio. Mais pour commencer, un mentor ayant déjà de l'expérience, tu trouveras. Tu le reconnaîtras par sa capacité à alterner entre rigolade et sérieux, à concocter des jingles incroyables en 2-3 mouvements, et par son aptitude surnaturelle à vivre dans une réalité parallèle roulant sur 30 heures par jour, car planifier et organiser des émissions, c'est un taf qui prend du temps. Et quand bien même il disposait réellement de 30 heures, il utiliserait ses 6 heures supplémentaires pour faire de la radio et non pour dormir. Pourtant, sans son engagement, toute l'émission s'écroulerait. Ensuite, un duo d'animateurs ou d'animatrices, tu choisiras. Si tu veux t'inspirer de notre équipe, assure-toi de réunir une étudiante en littérature à la voix grave et suave qui ferait même rougir Adèle Van Rett. Elle maîtrise l'anglicisme et le multitasking, enchaînant les rubriques comme une pro. Et dans un autre registre, une étudiante en journalisme ambitieuse qui progresse tellement vite en radio qu'il te faudra d'avance préparer l'équipe mentalement à la laisser partir l'an prochain pour intégrer Sciences Po. Enfin, une bande de chroniqueurs tu réuniras. Il te faudra premièrement trouver une chroniqueuse comédienne dans l'âme qui possède toujours les meilleures références et qui pourrait probablement ouvrir à elle toute seule sa propre archive sur le net de toutes les blagues et mèmes français que l'histoire du net ait jamais connues. Ensuite, tu dénicheras un chroniqueur qui apprend très vite à utiliser le matos technique, qui sait toujours quel câble va avec quelle prise et qui va apprendre en une seule soirée à utiliser un logiciel de montage juste pour te faire une vidéo communication qui déchire. Grand bonus, il sait faire des reportages dans les endroits les plus inédits. Il te faudra aussi une chroniqueuse avec une franchise sarcastique à l'italienne, qui sache toujours comment pimenter l'ambiance du groupe et les débats, et qui puisse dénicher les meilleures histoires d'amour pour la rubrique Sorbonne in Love. Une autre chroniqueuse qui débarque au milieu de l'année, mais qui a de la range, sachant jongler entre bons plans de Galette des Rois et portraits de penseurs comme Lévi-Strauss. Comment ne pas aimer, en effet, en tant qu'auditeur, avoir le ventre rempli à moitié prix tout en étant instruit? Tu chercheras également une chroniqueuse qui ne donne pas de signe de vie la plupart du temps, émergeant ex nihilo, mais bien préparée au dernier moment pour les émissions, et qui, petit bonus, a du mal à finir une chronique sans mentionner le nom d'un philosophe. Voilà, donc, des ingrédients qui réunis ensemble forment une équipe de choc pour une émission de radio inoubliable. Mais souvent, il n'y a pas de recette à suivre, et avec de nouvelles saisons émergent de nouveaux ingrédients dont vous ne saviez même pas avoir besoin. Donc, quand on parle de radio, planifiez, mais sachez quand vous arrêtez pour laisser place à la magie du facteur humain. Et vous vous débrouillerez. Voilà.
Merci beaucoup, Lavinia. Waouh. Tu vas nous faire pleurer, là. C'est OK. Ouf. Eh ben, on raconte donc notre vie et surtout la vie des personnages illustres de la Sorbonne, des écrivains, des philosophes, des cinéastes, peut-être vous bientôt.
C'est l'heure du Sorbonne en personne.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, top table.
Désolée de vous le dire comme ça, mais l'émission touche presque à sa fin. Dis donc, on a revu du beau monde de Radio Sorbonne pendant 1h30. Allez plus que le Sorbonne en personne et vous serez libre jusqu'au prochain épisode du mois. Dis-moi, Chirine, on sait sur qui elle est cette chronique même ?
Je sais pas trop. Thomas voulait qu'on la fasse sur Richelieu, je crois, hein, comme l'amphi. Mais il me semble qu'Alice avait une autre idée en tête pour cette émission spéciale 10 ans.
Tu sais, toi, Thomas
Bon, mes chers auditeurs, on vous laisse sans plus attendre pour briser le suspense du Sorbonne en personne spéciale surprise.
Effectivement, les filles, Thomas avait proposé qu'on fasse cette chronique sur Richelieu, petit clin d'œil au lieu, tout ça. Mais il a aussi dit, n'hésitez pas à tester des trucs, amusez-vous, faites-vous confiance et tentez des choses qui sortent du lot.
Just be you, be proud of you, because you can be do.
What we want to do.
Alors j'ai cherché un profil qui sort du lot. Il fallait donc que ce soit une personnalité iconique qui aurait un lien avec la Sorbonne, mais aussi dans l'idéal avec la radio, et même avec Radio Sorbonne Université de préférence. Mais qui pourrait répondre à tous ces critères? Et puis un soir, en me perdant dans les limbes de YouTube, j'ai enfin trouvé la réponse dans une vidéo de Monsieur Sebi, parue le 1er août 2014.
Hey, salut Thomas. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui tu mérites un cadeau? Je sais pas. Tu sais, ton prénom est trop de la base. Salut Thomas. Bah.
Évidemment, la réponse était sous mon nez depuis le début. Alors oui Thomas, je vais parler de toi dans cette chronique en tant qu'un des fondateurs de Radio Sorbonne et notre réalisateur à cour d'honneur, il faut bien que t'y passes. Mais te fais pas de fausses idées, on va pas faire d'éloges ni de courbettes pour le fameux Thomas Schnell ce soir. Je serais plutôt partie sur un délire d'anecdotes insolites, plus révélatrices sur le personnage. Alors, par où commencer ? Bah, j'ai essayé de chercher sur internet, mais on ne trouve pas trop des trucs croustillants sur toi. Alors tu serais originaire du Vaucluse, tu fondes RSU avec tes potes en 2015 lors de tes études de lettres modernes à la Sorbonne, entre autres, blablabla, on le sait tous. Tu es aussi présentateur radio à RMC, Europe 1, BFM, mais aussi correspondant français pour la chaîne d'information en continu québécoise TVA Nouvelles.
Attention au gros coup de vent et coup de mer également sur les côtes bretonnes et normandes. Cet après-midi, une grosse dépression.
Mais ne l'oublions pas, Thomas possède plusieurs casquettes et non Thomas, je ne parle pas de ta casquette pro-Trump, on y reviendra plus tard dans la chronique, ne t'inquiète pas, je sais qu'elle te tient à cœur. Il donne également des cours pour une classe préparatoire de journaliste, la prépa Schnell, qui offre 100% de taux de réussite aux écoles de journalisme. Je vous laisse deviner qui l'a fondé, l'indice est dans le nom. Bon, tout ça, c'est très formel, très académique, super, mais comme diraient les gens, ça manque de gros dossiers. Plus gros que ça en tout cas, t'inquiète Thomas, je ne vais pas en sortir de trop gros des dossiers non plus. J'ai donc dû me tourner vers d'autres sources que je ne souhaite pas citer pour un souci de confidentialité. Alors ce que Google ne nous dit pas, c'est que Thomas Schnell, c'est aussi le genre d'homme qui se baigne en slip de bain à Roscoff en plein hiver. Le mec est un dingo dingue, attention. Je pourrais aussi vous parler de la fois où il a fait rentrer les 10 anciens de cour d'honneur dans sa voiture Fiat Punto 4 places. J'aurais adoré voir ça. D'ailleurs, la chance Thomas, t'as de l'avenir dans les arts du cirque. Si un jour la radio te fatigue, pense-y. C'est aussi un grand amateur de charcuterie et de viande en couple avec une jeune femme végétarienne, elle aussi dans le milieu de la radio. Comme quoi, il arrive que les opposés, pas si opposés, s'attirent. Et puis Thomas aime la moto, Thomas aime le train, Thomas est encore un grand enfant en fait. Tu sais Thomas, il y a des super maquettes de trains très réalistes qui se font. On te promet de se renseigner si ça te tient à cœur.
Avec Thomas et ses amis.
Aussi, s'il vous manque un couvre-chef, demandez à Thomas, il ira vous le chercher en un rien de temps. Bon, alors lui, son délire, c'est pas trop H&M ou Zara. Non, lui, quand il a besoin d'un chapeau, il va l'acquérir directement dans le pays d'origine. Bah oui, trop froid aux oreilles, hop! Il profite d'être en Suède pour se ramener une chapka typique en fourrure de lapin. Après tout, pourquoi pas? Ou un peu trop de soleil, peut-être. Bah, il profite d'être aux USA, où il couvre les conférences pro-Trump. Bah pour se ramener une casquette pro-Trump, bah faut suivre un peu. Bon, après, il la met à l'intérieur du studio d'enregistrement, ça le protégera pas de grand-chose, encore moins de nos taquineries.
Together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America.
En parlant de taquinerie, t'inquiète Thomas, c'est maintenant l'heure que j'arrête de te charrier. T'as vu, je commence à saisir les timings. Non ? Bon, oui, bref, je disais, ce serait pas trop bon de tout dévoiler, il faut garder un peu de mystère et un peu d'anecdotes pour le prochain anniversaire de la prochaine décennie de Radio Sorbonne, qui sait ? Allez, c'est ciao pour ma part, je laisse maintenant le mot de la fin à vos deux animatrices, bref, chers auditeurs, à vous l'honneur, Swan et Chirine.
Merci Alice. Merci. Tu nous as bien fait rire. Mais malheureusement, c'est la fin de Cours d'honneur épisode 10 pour les 10 ans de Radio Sorbonne. Cette émission très 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 spéciale touche à sa fin.
Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci d'avoir été présent. Merci à nos invités, Valérie, Jeanne Perrier, Eve Benaïm, André Thibault et les Jobastres, ce fut un plaisir.
Merci également à notre public. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast. Et dans ta fac aussi. Merci évidemment à toute l'équipe. Merci à Thomas.
Merci à vous. À dans 10 ans.
À dans 10 ans.
Merci beaucoup Alice.
Merci à toi.
Merci, ça marche. Merci à tout le monde, merci d'être venu, merci à nos animatrices, bref, merci aux autres chroniqueurs. Ah, vous êtes géniaux, voilà. Merci à Thomas. Merci de vous inviter.
Merci à Marion pour cette fameuse interview.
Ouais, merci à tous, en tout cas, d'être venus. Et bon anniversaire à Radio Sorbonne Université.
Merci beaucoup à Lavinia.
Et ben, merci à vous, les filles. Merci à tous. Je trouve vraiment qu'on est en train de devenir une très, très bonne équipe. On prend nos marques.
Que de sages paroles. Merci à Maria Florencia, qui n'est pas là, mais qu'on embrasse depuis Paris jusqu'à Rio.
Et puis merci à Elias, t'as pas oublié le fameux.
C'est gentil, bah merci à vous, merci au public d'être là. Merci. Ça s'applaudit. Et puis merci à tous nos auditeurs de nous suivre et de suivre Radio Sorbonne depuis maintenant 10 ans. Et on se retrouve très très vite.
Un grand merci à la direction des affaires culturelles, Yann Migoubert, sans qui Radio Sorbonne n'aurait vraiment jamais vu jour, merci. À Yann Domenech, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu, merci infiniment.
Merci évidemment à Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat. N'oubliez pas, Cours d'honneur passe en mode bimensuel, un épisode toutes les deux semaines.
Sans oublier tous les amis de Radio Sorbonne qui ont fait vibrer les ondes pendant une décennie. Sylvain,
Florian,
Paul, Sanandra,
Caroline
et Lola.
Et toutes les générations qui se sont succédées au micro de Radio Sorbonne.
Julien,
Pauline,
Marlène,
Colline,
Jean,
David,
Camille,
Paloma,
Floriane,
Joséphine,
Célia,
Jeanne,
Mina,
Juliette,
Blanche,
Rossella,
Zoé,
Adriana,
Amélie,
Marine,
Cilia,
Louane,
Abel,
Ludine,
Théo,
Lilou,
Madeleine,
Zina,
Émilie
et tous les prochains aventuriers de la Grande Arche Radio Sorbonne.
On remercie également Hugo, le président actuel.
Et enfin, longue vie à Sorbonne Université et longue vie à Radio Sorbonne. Mais, l'émission n'est pas totalement finie. Hein. Vous pouvez nous retrouver au bar. On vous donne rendez-vous au Pantalon.
C'est le Pantalon, ouais, 7 rue Roger Collard, juste à côté du Panthéon, pour continuer la soirée.
Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime.
Ciao.
Bisous, ciao.
Tout ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur qui pègue, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.